Dobrek n'avait pas attendu l'ordre. Il se précipitait vers Prasville, essoufflé, les vêtements en désordre, un bandeau sur l'œil gauche, sans cravate, sans faux-col, l'air d'un fou qui vient de s'échapper. Et la porte n'était pas close qu'il agrippait Prasville de ses deux mains énormes.
« Tu as la liste ?»«
Oui. »«
Tu l'as achetée ?»«
Oui. »«
Contre la grâce de Gilbert ?»«
Oui. »«
C'est signé ?»«
Oui. »
Imbécile ! Imbécile ! Tu t'es laissé faire, par haine contre moi, n'est-ce pas ? Et maintenant, tu vas te venger.
Avec un certain plaisir, Dobrek. Rappelle-toi ma petite amie de Nice, la danseuse de l'opéra. C'est ton tour maintenant de danser.
Alors, c'est la prison ?
Pas la peine. Tu es fichu. Privé de liste. Tu vas t'effondrer de toi-même. Et moi, j'assisterai à ta débâcle. Voilà ma vengeance.
Et tu crois ça ? Tu crois qu'on m'étrangle comme un poulet et que je ne saurais pas me défendre ? Et que je n'ai plus de griffes et de crocs pour mordre ? Eh bien, mon petit, si je reste sur le carreau, il y en aura toujours un qui tombera avec moi. Ce sera le sieur Prasville, l'associé de Stanislas Vorenglade, lequel Stanislas Vorenglade va me remettre toutes les preuves possibles contre lui. De quoi te faire ficher en prison sur l'heure. Ah, je te tiens. Avec ces lettres, tu marcheras droit, crebleu. Il y a encore de beaux jours pour le député Dobrek.
Quoi ? Tu rigoles ?
Ces lettres n'existent peut-être pas.
Prasville haussa les épaules. Ainsi, elles existent. Mais Vorenglade ne les a plus.
Depuis quand ?
Depuis ce matin. Vorenglade les a vendues il y a 2 heures, contre la somme de 40 000 francs. Et moi, je les ai rachetées, le même prix.
Oh Dieu, que c'est drôle. 40 000 francs ? Tu as payé 40 000 francs ? À monsieur Nicole, n'est-ce pas ? Celui qui t'a vendu la liste des 27 ? Eh bien, veux-tu que je te dise le vrai nom de ce monsieur Nicole ? C'est Arsène Lupin.
Je le sais bien.
Peut-être, mais ce que tu ne sais pas, triple idiot, c'est que j'arrive de chez Stanislas Vorenglade et que Stanislas Vorenglade a quitté Paris depuis 4 jours. Ah, ce qu'elle est bonne, celle-là. On t'a vendu du vieux papier. Et 40 000 francs. Mais quel idiot.
Il partit en riant aux éclats et laissant Prasville absolument effondré. Ainsi, Arsène Lupin ne possédait aucune preuve. Et quand il menaçait, quand il ordonnait, et quand il le traitait, lui, Prasville, avec cette désinvolture insolente. Tout cela, c'était de la comédie, du bluff. Mais non, ce n'est pas possible. J'ai l'enveloppe cachetée, elle est là. Je n'ai qu'à l'ouvrir. Il n'osait pas l'ouvrir. Il la maniait, la soupesait, la scrutait. Et le doute pénétrait si rapidement dans son esprit qu'il n'eut aucune surprise, l'ayant ouverte, de constater qu'elle contenait 4 feuilles de papier blanc. Allons, je ne suis pas de force, mais tout n'est pas fini. Tout n'était pas fini, en effet. Si Lupin avait agi avec autant d'audace, c'est que les lettres existaient et qu'il comptait bien les acheter à Stanislas Vorenglade. Mais puisque d'autre part, Vorenglade ne se trouvait pas à Paris, la tâche de Prasville consistait simplement à devancer la démarche de Lupin auprès de Vorenglade et à obtenir de Vorenglade, coûte que coûte, la restitution de ces lettres si dangereuses. Le premier arrivé serait le vainqueur. Prasville reprit son chapeau, son pardessus et sa canne, descendit, monta dans une auto et se fit conduire au domicile de Vorenglade. Là, il lui fut répondu qu'on attendait l'ancien député, retour de Londres, à 6 heures du soir. Il était 2 heures de l'après-midi.
Prasville eut donc tout le loisir de préparer son plan. À 5 heures, il arrivait à la gare du Nord, et posté de droite et de gauche, dans les salles d'attente et dans les bureaux, les 3 ou 4 douzaines d'inspecteurs qu'il avait emmenés. De la sorte, il était tranquille. Si M. Nicole tentait d'aborder Vorenglade, on arrêtait Lupin. Et pour plus de sûreté, on arrêtait toute personne pouvant être soupçonnée ou bien d'être Lupin ou un émissaire de Lupin. En outre, Prasville effectua une ronde minutieuse dans toute la gare. Il ne découvrit rien de suspect. Mais à 6h10, l'inspecteur principal Blanchon, qui l'accompagnait, lui dit
« Tenez, voilà Daubrecq !»
C'était Daubrecq, en effet. Et la vue de son ennemi exaspéra tellement le secrétaire général qu'il fut sur le point de le faire arrêter. Mais pour quel motif? De quel droit? En vertu de quel mandat? D'ailleurs, la présence de Daubrecq prouvait, avec plus de force encore, que tout dépendait maintenant de Vorenglade. Vorenglade possédait les lettres. Qui les aurait? Daubrecq? Lupin? Ou lui, Prasville? Lupin n'était pas là et ne pouvait pas être là. Daubrecq n'était pas en mesure de combattre. Le dénouement ne faisait donc aucun doute. Prasville rentrerait en possession de ses lettres et par là même échapperait aux menaces de Daubrecq et de Lupin et recouvrerait contre eux ses moyens d'action. Le train arrivait. Conformément aux ordres de Prasville, le commissaire de la gare avait donné l'ordre qu'on ne laissât passer personne sur le quai. Prasville s'avança donc seul, précédant un certain nombre de ses hommes que conduisait l'inspecteur principal Blanchon. Le train stoppa. Presque aussitôt, Prasville aperçut, à la portière d'un compartiment de première classe situé vers le milieu, Vorenglade. L'ancien député descendit, puis donna la main pour l'aider à descendre à un monsieur âgé qui voyageait avec lui. Prasville se précipita et lui dit vivement
« J'ai à te parler, Vorenglade !»
Au même instant, Daubrecq, qui avait réussi à passer, surgissait et s'écria
« Monsieur Vorenglade, j'ai reçu votre lettre. Je suis à votre disposition. »
Vorenglade regarda les deux hommes, reconnut Prasville et Daubrecq, et sourit.
« Ah ! Il paraît que mon retour était attendu avec impatience. De quoi donc s'agit-il ? D'une certaine correspondance, n'est-ce pas ?»«
Mais oui !»«
Trop tard. »«
Hein ?
Quoi ?
Qu'est-ce que vous dites ?»«
Je dis qu'elle est vendue. »«
Vendue ?
Mais à qui ?»«
À monsieur, »
répliqua Vorenglade en désignant son compagnon de voyage.
« Ah, monsieur, qui a jugé que l'affaire valait bien un petit dérangement, et qui est venu au-devant de moi jusqu'à Amiens. »
Le monsieur âgé, un vieillard emmitouflé de fourrure et courbé sur une canne, salua.
« C'est Lupin. Il est hors de doute que c'est Lupin. »
Et il jeta un coup d'œil du côté des inspecteurs, prêt à les appeler. Mais le monsieur âgé expliqua
« Oui, il m'a semblé que cette correspondance méritait quelques heures de chemin de fer et la dépense de 2 billets d'aller et retour. »«
2 billets ?»«
1 pour moi et le second pour un de mes amis. »«
Un de vos amis ?»«
Oui, il nous a quittés il y a quelques minutes et par les couloirs, il a gagné l'avant du train. Il était pressé. »
Prasville comprit. Lupin avait eu la précaution d'emmener un complice, et ce complice emportait la correspondance. Décidément, la partie était perdue. Lupin tenait la proie solidement. Il n'y avait qu'à s'incliner et à subir les conditions du vainqueur.
« Soit, monsieur. Quand l'heure sera venue, nous nous verrons. À bientôt, Daubrecq. Tu entendras parler de moi. »
Et il ajouta, entraînant Vorenglade,
« Quant à toi, Vorenglade, tu joues là un jeu dangereux. »«
Et pourquoi donc, mon Dieu ? »